Il est 18h.
RJB Info.
Le journal Thomas Nagy, bonjour.
Bonjour. Moutier, ville jurassienne, se réjouit de la décision du Conseil suisse de la presse. L'organe a admis partiellement la plainte du comité contre des articles parus dans la Sonntagszeitung et le Matin dimanche. Vous entendrez Valentin Soubert, le porte-parole de Moutier, ville jurassienne, dans ce journal. L'Invisible s'invite au Paléo Festival. Il est mis en avant dans une exposition mise sur pied par les différentes entités de la HESSO, dont la Haute École Arc Ingénierie. Une grosse lutte entre favoris sur le Tour de France cycliste. Le Britannique Geraint Thomas s'est offert un doublé, victoire d'étape et maillot jaune. Le soleil s'est fait une belle place aujourd'hui et il devrait en faire de même demain. Météo News nous annonce une journée bien ensoleillée avec des maximales comprises entre 27 et 29 degrés. Une décision qui satisfait Moutier, ville jurassienne. Le comité a pris connaissance aujourd'hui du verdict du Conseil suisse de la presse concernant des articles de la Sonntagszeitung et du Matin dimanche. Les deux journaux avaient publié en mars des textes sur un supposé tourisme électoral systématique dans le cadre du vote sur l'appartenance cantonale de la commune. Selon le Conseil, ils ont violé leur devoir d'information et de vérité imposé aux journalistes. La Sonntagszeitung, en titrant Moutier République bananière, sans pouvoir détailler même partiellement cette grave accusation, et le Matin dimanche pour avoir diffusé un texte mal traduit. Moutier, ville jurassienne, avait porté plainte auprès du Conseil suisse de la presse. La réaction du porte-parole du comité, Valentin Soubert.
Je pense avant toute chose que c'est une excellente décision, puis qu'elle nous donne raison, et puis surtout c'est une décision qui a un petit peu tendance à remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire que en gros depuis une année, les perdants, qu'ils soient des autorités politiques ou bien des mouvements de lutte un peu plus locaux, n'ont eu de cesse que d'affirmer qu'il y avait eu des tricheries sans aucune preuve. Et lorsque c'est organisé par un conseil d'État et que ça fuite dans les grands journaux nationaux, moi, je pense que c'était vraiment important qu'on puisse absolument corriger cela. Et là, le Conseil suisse de la presse a montré que ces allégations étaient fausses et faites sans preuve. Et je pense que c'est une partie du rétablissement de la vérité qui est en cours là.
Dans sa décision, le Conseil suisse de la presse dit qu'on ne peut pas prouver que Moutier est une république bananière. Mais pour vous, cette décision prouve qu'il n'y a pas eu de tricherie à Moutier? Parce que ce n'est pas le fond de la décision, finalement.
Non, évidemment. Par contre, on n'a jamais eu une seule décision qui prouve qu'il y a eu des tricheries. Et j'aimerais vraiment qu'on arrête de faire la preuve par l'inverse, c'est-à-dire que c'est aux gens qui pensent qu'il y a eu des tricheries de prouver qu'il y en a eu et pas l'inverse. Et là, ce qui est difficile pour les autorités prévotoises, quelles qu'elles soient, c'est qu'on se fait accuser de choses qui n'ont jamais existé. Et je pense vraiment que c'est très nuisible à l'exercice démocratique, c'est très nuisible à la cohésion sociale aussi, parce que, qu'on le veuille ou non, Moutier a besoin maintenant d'avancer et puis d'acter la décision qu'elle a prise il y a un petit peu plus d'une année. Et donc je pense que c'est vraiment important que ceux qui n'ont jamais digéré la défaite cessent d'importuner cette ville qui veut aller de l'avant. Et là, c'est simplement la correction d'un de ces cas, je dirais.
Des propos recueillis par Alexandre Steiner. Les autres points visés par la plainte de Moutier, ville jurassienne, ont en revanche été rejetés. Drame de la route la nuit dernière. Un motard de 27 ans habitant la Neuville a perdu la vie. Une collision s'est produite entre le pilote du deux-roues et une voiture conduite par une automobiliste de 26 ans domiciliée à Neuchâtel. L'accident mortel a eu lieu hier soir vers 22h30 à la hauteur de la Main de la Sagne en montant le col de la vue des Alpes depuis la Chaux-de-Fonds. Le motard est décédé sur place malgré l'intervention rapide des secours. La route a été fermée au trafic durant plus de 7 heures pour les besoins du constat. Une instruction a été ouverte par la procureure de permanence pour déterminer les causes et les circonstances de ce drame. Y a-t-il déjà eu des accidents par le passé à cet endroit? Le lieu est-il pour autant dangereux? La réponse de Georges-André Lozouet, chargé de communication à la police neuchâteloise.
La Main de la Sagne est un secteur qui ne pose pas de problème particulier en matière de sécurité routière. La police neuchâteloise effectue des contrôles de vitesse régulièrement, notamment sur le long bout droit qui va jusqu'au premier virage en direction de la vue des Alpes. Et on n'a pas constaté plus d'accidents à cet endroit ces dernières années.
Le tunnel, la vue des Alpes, est fermé actuellement, ce qui augmente du coup le trafic par le col. Est-ce qu'il y a un appel à faire pour que les gens prennent peut-être davantage de précautions?
Alors, cette fermeture du tunnel de la vue des Alpes, elle est annuelle. Donc, les automobilistes qui empruntent ce tronçon, ils sont habitués. Ils savent aussi que, évidemment, le temps de trajet est un petit peu allongé et que, évidemment, la route étant sinueuse, elle peut être un petit peu plus dangereuse. Dès lors, la police neuchâteloise effectue des contrôles de vitesse réguliers pour que le trafic soit apaisé, entre guillemets. Mais cet accident n'est pas en lien avec la fermeture du tunnel à proprement parler.
Des propos recueillis par Jean-Paul Pitchy. La police lance un appel à témoins. Toute personne ayant assisté à cet accident est priée de prendre contact avec la police neuchâteloise au 032 889 9000. Il n'y a pas que de la musique au Paléo Festival à Nyon. Depuis 2005, la Haute École de Suisse Orientale, la HESSO, présente un projet au cœur du festival. Cette année, l'installation se nomme Deep. Lucas Rossi, seul étudiant de la HE Arc Ingénierie de Neuchâtel, à avoir participé au projet.
Il consiste à montrer ce qui est l'invisible. Donc, il y a 6 projets qui sont présentés où on montre des choses qui sont invisibles pour la plupart des gens. Il y a un projet, par exemple, qui est pour les handicaps. On nous parle de ces personnes et à la fin on découvre qu'ils ont un handicap mais qu'il n'est pas visible. Et ben nous, c'est pour la fête des morts, c'est pour montrer que au Mexique, dans d'autres civilisations, ça peut être positif et que pour nous en Occident, c'est quelque chose de négatif de penser aux morts. On n'est jamais très festif pour ces sujets, par exemple.
Vous venez d'une école d'ingénieurs. Quel est le rapport entre une école d'ingénieurs et la fête des morts au Mexique ?
Il n'y en a aucune. C'est un sujet hors cadre. Et c'est un mélange avec plusieurs écoles. Moi, j'ai intégré le projet. Je suis le seul de mon école qui a intégré tout le projet. Toute la GSSO, ça peut être ingénierie, santé, gestion, puis aussi tout ce qui est pédagogie. C'est un mélange entre tous ces univers, c'est pour ça que ce n'est pas forcément en rapport avec l'ingénierie.
Lucas Rossi au téléphone de Myriam Vitevert. Deep est à découvrir au Paléo Festival de Nyon jusqu'à dimanche. Des ventes records pour Swatch. Le groupe horloger a dévoilé ses résultats semestriels ce matin. Il enregistre un chiffre d'affaires jamais vu pour cette période. 4,27 milliards de francs, soit une augmentation de près de 15%. Des résultats exceptionnels qui s'expliquent par la reprise massive du secteur horloger depuis l'année passée, mais aussi grâce à un regain d'intérêt de la part des jeunes consommateurs. Un accident mortel sur le Cervin. Un homme et une femme se sont lancés dans l'ascension de la face sud du sommet. Vers midi, l'un d'eux a perdu l'équilibre et a emporté sa compagne de cordée dans sa chute. Un guide alpin qui les avait croisés les a vus tomber et a donné l'alarme. Les deux alpinistes n'avaient pas de documents d'identité sur eux. Les militaires du secours alpin de Cervinia n'ont pas encore reçu de demande de signalisation de personnes manquantes. Ils sont en contact avec les autorités suisses. L'initiative de l'UDC qui veut établir la primauté du droit suisse sur le droit international est un danger. Cette économie suisse qui l'affirme à un peu plus de 4 mois de la votation populaire le 25 novembre. L'insécurité juridique planerait sur 600 accords internationaux. La fêtière des entreprises suisses lance donc la campagne dès ce milieu d'été avec une stratégie nouvelle qui tire les leçons des campagnes perdues ces dernières années sur l'immigration de masse, RIE3 ou l'initiative Minder. Carmelo Lagana, responsable roman de la campagne pour Économie Suisse.
Pourquoi on le fait aujourd'hui ? Parce que c'est une initiative qui aborde une thématique relativement complexe, à savoir la relation entre le droit suisse et le droit international. Ça nécessite un certain nombre d'explications, d'éclaircissements qu'il faut faire bien en amont. Il nous semble vraiment important d'expliquer en fait ce qu'est le droit international, pourquoi la Suisse a besoin du droit international, en quoi elle en bénéficie, en quoi l'économie suisse tire profit du droit international, pour qu'ensuite on puisse enchaîner sur, disons, une campagne peut-être plus classique, mais différente.
Est-ce que dans la population, celle qui va voter au mois de novembre, il n'y a pas, lorsqu'on parle d'économie suisse, une sorte d'effet repoussoir ?
Auprès de la population, et certains sondages nous l'indiquent, il y a également un certain nombre de citoyens qui sont sensibles au fait que nous sommes un pays exportateur qui a besoin d'un certain nombre d'accords économiques pour pouvoir accéder aux marchés étrangers mondiaux. Ce sont des argumentations qui sont aussi entendues par une partie de la population qui n'est pas à négliger.
Des propos recueillis par Serge Jubin, Économie Suisse avait choisi de présenter son premier papier de position ce matin à Zurich.
À l'écoute d'RJB, il est 18h10.
Sport. Une grosse lutte entre favoris sur le Tour de France cycliste. La 11e étape entre Albertville et La Rosière, disputée sur 108 km dans les Alpes, a débouché sur un spectacle palpitant. La victoire est revenue à Geraint Thomas. Le Britannique de l'équipe Sky a devancé de 20 secondes le Néerlandais Tom Dumoulin et son coéquipier Christopher Froome. Geraint Thomas s'empare par la même occasion du maillot jaune. Sur la route du Tour, le résumé de cette 11e étape est signé de notre confrère de RMC Sport, Fred Adam.
Étape courte mais nerveuse aujourd'hui avec 108 km entre Albertville et La Rosière. La Sky et la BMC laissent la porte ouverte aux attaquants. Du coup, ça part dans tous les sens. Ils sont 18 devant pour aborder la montée de Bizane, classée hors catégorie, avec notamment le Suisse Mathias Franck. Un groupe de 18 qui passe à 30 dans l'ascension du col du Pré avec un autre Suisse, Stephen Kung. Puis se présente le col de Roseland, classé en deuxième catégorie. Dans la descente de ce col, ils ne sont plus que 13. Une descente très technique qui scinde l'échappée et qui envoie au sol Mathias Franck. Le Suisse se relève mais perd du terrain. Ils ne sont plus que 5 pour aborder le col de la Rosière, dernière difficulté du jour, dont l'Espagnol Mikel Nieve qui part en solitaire à 8 km de l'arrivée. Le Néerlandais Tom Dumoulin, lui, part en contre-attaque. Dans le même temps, les favoris s'expliquent. Geraint Thomas puis Christopher Froome accélèrent et font exploser la concurrence. Geraint Thomas a des jambes de feu et remet une banderille à 500 mètres de l'arrivée. Le vainqueur du Dauphiné rejoint Mikel Nieve, le dépose et s'offre la victoire d'étape. Le Britannique fait coup double et prend le maillot jaune. Est-il le nouveau leader du Team Sky ? Réponse de Chris Froome dès demain sur les routes de l'Alpe d'Huez.
Le peloton s'attaque donc demain à un mythe des Alpes. Les coureurs arriveront à l'Alpe d'Huez après 175 km d'effort. Alexandre Pittet croisera le fer avec les meilleurs spécialistes mondiaux d'escrime. Le jeune Biennois participera à ses premiers championnats du monde de vendredi à lundi à Wuxi en Chine. À 23 ans, il est l'un des 171 tireurs qui vont en découdre pour le titre mondial. Il a pour objectif de terminer parmi les 64 meilleurs. Le Célandais voit ses joutes mondiales comme un excellent tremplin pour la suite de sa carrière. Alexandre Pittet.
Tout d'abord, pour se développer pour le futur, emmagasiner de l'expérience. Et ensuite, faire un top 64, ce serait super, mais c'est vrai que l'expérience, ça reste le plus important.
Cette expérience, est-ce qu'on arrive ou est-ce qu'on arrivera au terme des 3-4 jours de compétition là-bas à se dire, bah oui, l'objectif il est atteint, j'ai emmagasiné de l'expérience?
C'est compliqué. Je pense que sur le court terme, ce sera dur de dire, mais il faut utiliser ça un peu comme tremplin pour aborder la prochaine saison de Coupe du Monde au mieux possible. Et puis peut-être que dans 4-5 mois, on pourra dire... J'en ai vraiment profité de ces championnats du monde, ou alors ça ne m'a pas permis de me développer.
Avec vos 23 ans, vous serez l'un des plus jeunes concurrents de ce championnat du monde. C'est un avantage? C'est un inconvénient?
On gagne un peu en fougue. En escrime, il faut quand même être très discipliné. Donc pour la victoire finale, ce n'est pas forcément un avantage. Mais bon, voilà, je dois aussi amener ma créativité, ma jeunesse, ma vitesse. Et puis, pas non plus trop penser à ça, aussi un peu... être plus vieux que mon âge et puis pas faire d'erreurs pendant que les adversaires plus expérimentés.
Des propos recueillis par Mathieu Schaffner. Steve Gerda dans le top 10 du prix de l'Europe au CHIO d'Aix-la-Chapelle en Allemagne. Le cavalier de basse-cour avec Bianca a pris la 6e place aujourd'hui dans cette compétition. Un autre jurassien a participé à ce concours. Alain Juffer s'est classé 53e avec son cheval Ramanchoff. Belle soirée.
Et belle soirée à vous aussi, Thomas Nage. On va prendre des nouvelles du ciel. Pour ce soir et cette nuit, le ciel sera bien dégagé. Nous pourrons pleinement profiter des étoiles. Et c'est un temps idéal pour des activités extérieures, soit dit en passant. Pour demain, nous nous réveillerons sous le soleil. Un soleil qui sera dominant plus ou moins dans l'ensemble de la journée. Au fil des heures, quelques cumulus pourraient se développer dans le Jura. Normalement, nous devrions rester au sec. Mais si un gros cumulus passe par là, une petite averse n'est pas à exclure. Côté température, elles sont chaudes et estivales. Quand nous nous réveillerons, il fera entre 13 et 16 degrés. Pour la seconde partie de journée, ça va décoller. 28 degrés attendus dans la vallée de Tavannes. 29 degrés entre Moutier et Delémont, un maximum de 30 degrés autour du lac de Bienne. Vendredi, le soleil sera encore une fois le roi, sauf à Bienne, où quelques cumulus pourraient passer et pourquoi pas lâcher quelques gouttes. Quant au week-end, il s'annonce plus ou moins pluvieux et un peu plus frais.